Vous écoutez, on lit pour vous.
Le rôle de Big Tech dans la propagation de la désinformation. Un texte d'Eliott Levy, publié le 9 janvier 2026 dans La Liberté. Relevant du vaste domaine des préjudices en ligne, terme utilisé pour englober tout l'éventail des activités potentiellement dangereuses sur Internet, du contenu illicite au discours haineux, la propagation des fausses informations est un problème qui ne fait toujours pas l'objet de véritables mesures de protection. Discussion avec Helen Hayes, directrice du développement et chercheuse principale au Center for Media, Technology and Democracy, sur la responsabilité des grandes entreprises technologiques. Alors que les outils permettant de créer et de diffuser de la mésinformation et de la désinformation évoluent à une rapidité folle, une question indispensable se pose. Qui devrait être responsable de mettre en œuvre des mesures de protection contre la propagation de fausses informations? Selon les experts, tant le gouvernement que les grandes entreprises technologiques ont des responsabilités envers les consommateurs, mais pour des raisons différentes. À elles seules, les grandes entreprises technologiques ne sont pas incitées à mettre en place des mécanismes réglementaires, explique Helen Hayes, directrice du développement et chercheuse principale au Center for Media, Technology and Democracy. Leur autorégulation est tempérée par la façon dont elles pensent que leurs marges de profit seront affectées par les différentes conceptions de système. Les gouvernements, quant à eux, ont tout intérêt à améliorer la démocratie, à préserver la santé de l'écosystème de l'information et à renforcer la confiance de leurs citoyens. Jusqu'à présent, malgré de nombreuses tentatives visant à légiférer sur l'industrie technologique, les lois canadiennes sur le sujet restent rares. Après deux tentatives infructueuses visant à réglementer les préjudices en ligne, le gouvernement libéral n'a toujours pas réintroduit les projets de loi qu'il avait rédigés et qui ont été abandonnés lors des élections d'avril 2025. Un cours historique de la législation récente sur les préjudices en ligne. La question de la réglementation des préjudices en ligne au Canada prend réellement son essor fin 2020, lorsque les Canadiens commençaient à discuter de plus en plus de la nécessité de réglementer les géants de la technologie. Des consultations publiques avaient alors été organisées et la Commission canadienne sur l'expression démocratique a été créée afin d'identifier et de répondre aux effets des plateformes technologiques sur la démocratie. Les consultations publiques et les groupes d'experts organisés dans le cadre de cette commission ont permis de déterminer que les compagnies Big Tech devait être réglementée en raison des préjudices en ligne auxquels les citoyens sont constamment exposés. Ces réglementations s'inspireraient et tireraient les enseignements des législations mises en œuvre dans d'autres régions du monde. Par exemple, les législateurs se sont penchés sur la NetzDG, loi allemande créée en 2017 pour lutter contre les fausses informations, les discours haineux et d'autres formes de contenu préjudiciables. La loi imposait une lourde amende aux plateformes en ligne qui ne supprimaient pas les contenus préjudiciables dans les 24 heures suivant leur publication. une règle qui est devenue problématique lorsqu'on s'est aperçu que les plateformes supprimaient plus de contenu que nécessaire par crainte de devoir payer l'amende. Au lieu d'opter pour une approche trop prudente qui risquait d'enfreindre la liberté d'expression de plusieurs internautes, les législateurs canadiens ont décidé de se concentrer sur une approche qui imposerait aux géants de la technologie ce que l'on appelle des obligations de diligence. Cela implique un devoir de responsabilité, un devoir de suppression des contenus illégaux et un devoir de protection des enfants. Ce sont là les trois principales obligations qu'ils recherchaient, qui ont évolué au fil du temps pour aboutir à la législation que nous connaissons sous le nom de projet de loi C-63 ou la loi sur les préjudices en ligne. L'objectif du projet de loi était de réglementer certaines formes de contenu, principalement celles qui portaient atteinte aux enfants. Les contenus liés à l'automutilation, à la cyberintimidation, aux abus sexuels, au terrorisme, devaient être supprimés, sous peine de lourdes amendes pour les plateformes. Ils devraient également prendre une série d'autres mesures, notamment publier des évaluations des risques liés à leur propre plateforme, modifier la conception de leur système, etc. Bien que le projet de loi ait été généralement bien accueilli, la décision de Justin Trudeau de proroger la session parlementaire a mis fin aux travaux sur ce projet de loi et, par le fait même, au projet de loi C-27 qui aurait fourni une législation sur les systèmes d'intelligence artificielle. La réglementation idéale des préjudices en ligne. Même si le Canada est revenu à la case départ, le travail accompli sur le projet de loi C-63 a permis d'identifier les éléments fondamentaux de la réglementation en ligne. Il a défini des mécanismes de transparence, d'évaluation des risques et d'audit qui constituent tous les fondements d'une bonne politique relative aux plateformes en ligne. Les mécanismes de transparence impliquent que les grandes entreprises technologiques devraient publier des informations sur la manière dont elles gèrent leur système, incluant le nombre de personnes qui signalent des contenus et la quantité de contenus supprimés. Les modèles d'évaluation des risques sont, quant à elles, des prévisions concernant le niveau de risque lié à l'utilisation d'un certain système, ainsi que les mesures prises pour atténuer ces risques. Enfin, l'audit serait la partie de la législation qui prévoirait qu'un acteur indépendant corrobore les évaluations de la plateforme et identifie les problèmes à résoudre de manière indépendante. Les préjudices en ligne et le contexte de l'IA. Ces mêmes mécanismes réglementaires sont également nécessaires dans le domaine des systèmes d'intelligence artificielle, IA. Par exemple, afin d'atténuer les risques potentiels liés à la diffusion de contenus générés par l'IA, un mécanisme de transparence pourrait ajouter un filigrane numérique ou une étiquette alertant les utilisateurs de la nature du contenu qu'ils consomment. Selon Helen Hayes, ce niveau de transparence est particulièrement important dans le domaine de l'IA, car l'interaction des utilisateurs avec l'IA diffère d'une plateforme à l'autre. Un utilisateur des réseaux sociaux qui tombe sur du contenu généré par l'IA dans son fil d'actualité ne s'y engage pas de manière aussi volontaire que quelqu'un qui discute avec ChatGPT. La question est de savoir si vous consentez et comprenez pleinement que vous interagissez avec un système d'IA générative. En outre, les entreprises technologiques devraient être réglementées afin d'être tenues responsables du contenu généré par l'IA et d'en limiter la diffusion, d'autant plus que les algorithmes peuvent très facilement sélectionner et proposer ce type de contenu aux utilisateurs. Comme il peut être généré très rapidement, il peut également être diffusé rapidement par des systèmes de robots. C'est pourquoi de plus en plus de personnes réclament que les dispositions relatives à l'IA soient intégrées dans la législation sur les préjudices en ligne plutôt que dans des projets de loi distincts. Les manquements des entreprises Big Tech. Présentement, les entreprises technologiques en font peu pour limiter la propagation des fausses informations en ligne. Si certaines plateformes disposaient auparavant d'équipes dédiées à la vérification des faits, beaucoup d'entre elles ont remplacé ce système par un autre, moins coûteux en main-d'œuvre. Ce nouveau modèle, basé sur la vérification des faits par la communauté, donne responsabilité aux utilisateurs eux-mêmes de corriger les informations erronées qu'ils rencontrent sur chaque plateforme. En ce moment, c'est la seule mesure de précaution, ce qui est scandaleux, dit Helen Hayes. Ce modèle open source pourrait, en théorie, être utile, mais en pratique, il présente une multitude de défis, notamment en matière d'expertise. Qui détermine quels faits sont corrects? D'où proviennent les recherches? Mais cette mesure régressive n'est pas le seul changement apporté par les entreprises technologiques qui a permis une plus grande propagation de fausses informations. En 2018, Facebook a été la première plateforme à modifier son fil d'actualité pour adopter un modèle basé sur un algorithme. Avant ce moment, les seules publications qui apparaissaient dans le fil d'actualité d'un utilisateur provenaient de ses amis, des pages qu'il avait aimées et des groupes dont il faisait partie. En bref, uniquement les choses qu'il avait choisi de voir. Après le changement, la chronologie s'est transformée en ce que l'algorithme pense que chaque utilisateur aimerait voir en fonction de ses goûts, des groupes auxquels il appartient et du contenu qu'il a consulté. C'est pourquoi quelqu'un qui a regardé 10 vidéos de chiens en verra soudainement 100. C'est un exemple tout à fait innocent. Mais avec la désinformation et la mésinformation, si vous êtes susceptible de lire des plateformes ou des faux médias d'information qui publient des fausses nouvelles, davantage de contenus de ce type apparaîtront dans votre fil d'actualité. Cela incite les gens à rester plus longtemps sur leurs écrans. Les entreprises n'ont aucun intérêt à réglementer la diffusion de ce contenu, car cela permet de fidéliser les utilisateurs à leur plateforme. Le contrôle que nous avons en tant qu'utilisateurs sur les recommandations que nous fournissent nos algorithmes est pour le moins limité. Sur TikTok, par exemple, cela se traduit par la possibilité de supprimer son historique de navigation. Cette fonction ne réinitialise pas réellement l'algorithme, mais efface simplement ce que vous avez regardé afin que vous puissiez mieux le redéfinir. L'année dernière, je travaillais sur un projet concernant les troubles alimentaires sur TikTok et dans le cadre de ce projet, j'ai dû créer un compte. Cette expérience de recherche a été très traumatisante et j'ai réinitialisé mon fil d'actualité après coup, mais le service continuait à me recommander les mêmes contenus qu'auparavant. Cette fonctionnalité, appelée « contrôle algorithmique », n'existe pas sur Facebook, X et Instagram. Mais elle occupe une place de plus en plus importante dans les efforts de sensibilisation menés par divers groupes, notamment ceux qui luttent pour les droits des enfants, afin d'essayer de reprendre le contrôle de nos contenus. Il ne s'agit plus de choisir le type de contenu que vous souhaitez voir. Il s'agit désormais de devoir s'y désinscrire, ce qui est une structure de consentement complètement différente. Ce que les géants de la technologie devraient faire. Dans un monde idéal, les entreprises technologiques elles-mêmes traiteraient les préjudices en ligne non pas comme des problèmes de contenu isolés, mais comme des problèmes de conception, de gouvernance et d'incitation, explique Helen Hayes. Elle entend par là que des choix responsables devraient être intégrés aux plateformes elles-mêmes et développés en coordination avec des experts externes dans le respect des normes de sécurité et après avoir subi des tests de performance. Les algorithmes seraient transparents et ajustables et les plateformes fourniraient des données standardisées en temps réel aux chercheurs et aux décideurs, ce qui faciliterait l'examen des pratiques de ciblage publicitaire et d'amplification de contenu. Au lieu des fils d'actualité opaques visant à maximiser l'engagement, les plateformes offriraient aux utilisateurs un contrôle significatif. Options chronologiques, fils non personnalisés et possibilité de se désinscrire complètement du profilage. Dans des contextes à haut risque, comme la santé publique ou en période d'élection, les plateformes rétrograderaient temporairement les contenus non vérifiables, ralentiraient leur vitalité et mettraient en avant les sources faisant autorité. Elle ajoute que les entreprises technologiques devraient agir de manière véritablement responsable plutôt que de se contenter de se conformer à la réglementation lorsqu'elle est mise en œuvre et appliquée. Si les plateformes accordaient autant d'importance à la sécurité, à la transparence et à la résilience démocratique qu'elles en accordent à l'engagement, les préjudices en ligne seraient considérablement réduits. C'était le rôle de Big Tech dans la propagation de la désinformation. Un texte d'Eliette Lévy, publié le 9 janvier 2026 dans La Liberté.
Découverte archéologique des dragons de jade de la culture de Hongshan. Un texte de Liu Guoxiang, paru le 26 juin 2025 dans le quartier de l'UNESCO. En 2024, les archéologues ont mis au jour des vestiges millénaires de première importance à Shifeng, dans la région autonome de Mongolie intérieure, en Chine. À ce jour, plus de 700 sites de la culture de Hongshan ont été exhumés. Ces découvertes archéologiques révèlent l'histoire d'une culture néolithique dynamique ancrée dans le culte des ancêtres, du ciel et de la terre. Dans la chaleur étouffante de la mi-juillet 2024, les efforts des archéologues qui explorent les tombes du tertre de pierre sur le site de Yuan Baoshan, bannière d'Aouan, ville de Shifeng, région autonome de Mongolie intérieure, ont fini par porter leurs fruits. Après avoir retiré les dalles de pierre supérieures et le remblai de l'une des tombes, un ensemble d'objets en jade a été découvert. Parmi les objets exhumés se trouve notamment un dragon lové, un jade en forme de sabot et un ornement en forme de coiffe. Lorsque les archéologues ont mis au jour le dragon, ils ont eu le sentiment de serrer la main d'un chef solennel de la culture de Hongshan, abolissant ainsi pas moins de 5000 ans. La culture de Hongshan doit son nom à la fouille du site de Hongshanhu, ville de Shifeng, région autonome de Mongolie intérieure. Il s'agit d'une culture néolithique fondée principalement sur l'agriculture qui remonte à environ 6500 à 5000 ans. À ce jour, plus de 700 sites Hongshan ont été découverts à Shifeng. Prière pour la pluie. Les dragons de jade sont emblématiques de la culture de Hongshan. Ils symbolisent la constitution de plus de 5000 ans de civilisation chinoise. Le dragon est un totem de la nation chinoise et, selon la légende, il possède le pouvoir divin de faire tomber la pluie. Un don précieux dans cette région montagneuse et vallonnée où la sécheresse est un obstacle majeur à l'agriculture. L'apparition des dragons de jade est étroitement liée au rituel de prière pour la pluie et les récoltes abondantes. Le dragon découvert dans la tombe de Yuan Baoshan est sculpté dans du jade de trémolite. Il présente un motif élégant. La tête et la queue forment une courbe continue. La tête est large, les oreilles se dressent en arc arrondi et les yeux sont proéminents. Mesurant 15,8 cm de haut et 9,9 cm de large, il s'agit de l'exemplaire le plus grand et le mieux conservé de ce type jamais mis à jour. Des dragons lovés similaires en jade, considérés comme des chefs-d'œuvre Hongshan, sont conservés au musée Guimet en France et au British Museum au Royaume-Uni. Ces exemplaires datent de la fin de la culture de Hongshan, il y a environ 5500 à 5000 ans. Le dragon de jade, en forme de C, est un autre objet caractéristique de la culture de Hongshan. Deux objets de ce type, des dragons dessinant une courbe aux cornes relevées en forme de crochet, ont été découverts par des agriculteurs qui labouraient leurs champs. Un dragon en jade jaune a été découvert sur le site de Dongguabangu, dans la bannière d'Ongniud, à Shifeng, en 1949, et un dragon de jaspe sur le site de Sakintala, dans la même région, en 1971. Ils occupent aujourd'hui une place centrale au musée de Wangnyotiki et au musée national de Chine. Depuis juin 2024, plus de 100 artefacts de jade ont été mis à jour dans les tombes du tertre de Yuan Baoshan, témoignant d'un savoir-faire sophistiqué et d'un système rituel élaboré. Le jade est principalement de la trémolite de Xiunyan, une roche de la province de Liaoning. L'aspect en est lisse et brillant, les couleurs variant entre le jaune blanc, le jaune vert, le vert et le vert foncé. Fosse sacrificielle. Au cours de l'été 2021, de fortes précipitations se sont abattues sur le site de Ma'an-Giaoshan à Xianping, dans la province de Liaoning. Une fois les nuages dissipés, les archéologues ont remarqué des taches sombres dans la zone d'excavation. L'équipe a alors compris qu'un grand nombre de vestiges de la vie quotidienne et des activités de production des ancêtres de la culture de Hongshan étaient inhumés à cet endroit. Après 6 mois de fouilles systématiques autour de cette zone, ils ont découvert une vaste zone sacrificielle contenant 42 fosses rituelles. Ces fosses ont livré un grand nombre d'objets, jarres en poterie peintes, pelles en pierre et meules à la main. Le site de Ma'an-Kiaoshan est un grand établissement de la culture de Hongshan, ancienne à moyenne, datant d'environ 6400 à 6000 ans. L'ère sacrificielle a été soigneusement planifiée et construite en deux phases. Trois niveaux en terrasse ont d'abord été créés sur les pentes est, ouest et nord d'une petite colline septentrionale pour former la plateforme sacrificielle. Puis un espace rituel séparé a été aménagé dans la partie méridionale par l'apport de nouvelles couches de terre. Il s'agit de la première découverte d'une vaste zone sacrificielle distincte au sein d'un établissement de la culture de Hongshan. Tête de déesse. Découvert au début des années 1980, le site de Niueliang, qui s'étend sur 50 km² à Shaoyang, dans la province du Liaoning, fut le plus grand centre funéraire et rituel de la fin de la période Hongshan. Un temple a livré une sculpture grandeur nature de la tête d'une déesse. Le célèbre archéologue chinois Su Bingyi l'a qualifié d'ancêtre féminin du peuple Hongshan et d'ancêtre commun de la nation chinoise. En mai 2012, une statue d'argile représentant un corps entier a été mise au jour sur le site de Xunlonggu à Aoan, confirmant ainsi les traditions de culte des ancêtres dans la culture de Hongshan. Les vestiges montrent que le culte des ancêtres, du ciel et de la terre, et les totems de dragons chinois constituent le noyau spirituel de la constitution de la civilisation de Hongshan. Les vivants honoraient les morts pour obtenir leur protection ancestrale, la fertilité et l'abondance des récoltes. Les découvertes archéologiques révèlent également que, tout au long de son développement, la culture de Hongshan a entretenu des liens étroits avec les cultures néolithiques voisines, la culture de Yangshao il y a 7000 à 5000 ans, des plaines centrales, la culture de Lingxiatan il y a 5800 à 5300 ans de la région des rivières Yangtze-Huai et la culture de Liangzu il y a 5300 à 4300 de la partie inférieure de la rivière Yangtze. Par exemple, les poteries peintes de la culture de Yangshao se sont répandues vers le nord jusqu'à la culture de Yongshan, tandis que les figurines de jade et les dragons lovés de Hongshan ont influencé à la fois les cultures de Li Xiantan et de Liangzu. Grâce à ces interactions, intégrations et échanges précoces, l'unité plurielle chinoise a émergé dans la Chine préhistorique, jetant des bases solides pour plus de 5000 ans de civilisation chinoise. C'était « Découverte archéologique des dragons de jade de la culture de Hongshan », un texte de Liu Guoxiang, paru le 26 juin 2025 dans le courrier de l'UNESCO.